Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, peut-on vraiment déconnecter ? Pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, mais dans notre vie. Nous consultons notre téléphone près de 2716 fois par jour, soit près de 2 fois par minute. 5 heures par jour en moyenne devant les écrans, hors temps de travail pour ce qui est de la France. Alors, est-il encore possible de se déconnecter dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle ? Pas de doute, en tout cas, vous avez conscience du problème, les voisins et les voisines, où que vous soyez dans le monde. Vous avez posté de très nombreux messages. Comment organiser une déconnexion partielle ? Peut-être il faut réduire nos ambitions. Des entreprises se dotent maintenant de chartes du droit à la déconnexion. Est-ce que c'est une bonne piste ? On vous propose en tout cas d'en discuter avec nos invités. Cette émission est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation. Bonjour Thibault Liorade.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes chef de la rubrique économie à The Conversation, qui est un média en ligne à partir d'articles de chercheurs. Et c'est vrai que sur un tel sujet, on a tous un point de vue sur la déconnexion. C'est pas mal d'aller au-delà de nos impressions et vous publiez régulièrement des articles sur ce sujet.
Tout à fait, c'est un sujet qui interpelle les chercheurs puisque c'est, comme vous l'avez dit, un sujet qui concerne tout le monde et qui est particulièrement important aujourd'hui dans les entreprises.
Et puis qui concerne plein de disciplines différentes, la sociologie, la psychologie, le management, qui touche les sphères de l'économie, des problèmes de société, de famille, etc.
Et puis de santé également.
Exactement.
Puisque on sait que une des conséquences un petit peu extrêmes de ce qu'on appelle la cyberaddiction aujourd'hui, ce sont la dépression, ce sont des phénomènes comme ça qui entraînent du mal-être.
Avec nous, Dominique Boulier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à Sciences Po Paris, vous avez publié Sociologie du numérique chez Armand Collin et vous êtes déjà bien connecté sur votre smartphone pendant qu'on commence l'émission. On a reçu beaucoup de messages sur ce sujet. Le week-end dernier en France, dans un village de l'Aveyron, une adolescente de 13 ans a poignardé ses parents parce qu'ils lui avaient confisqué son téléphone portable. Je ne sais pas si vous avez vu ce fait divers.
Non, je dois dire que non.
Thibault lui a... Ah, comment ça ? Vous n'êtes pas suffisamment connecté. En tout cas, les parents sont tous les deux hospitalisés. C'est grave. Jusqu'à il y a peu de temps, on évaluait surtout les conséquences positives de l'Internet, c'est-à-dire l'accès à l'information, l'ouverture sur le monde, l'éducation, la possibilité de s'élever. Comment on en est arrivé là, finalement, sans même s'en rendre compte, Thibault Liorade ?
Alors, pour moi, c'est particulièrement bien révélé par les témoignages qu'on a eus et ce terrible fait divers que vous avez rappelé. C'est tout simplement qu'on est dans des comportements qui relèvent de l'addiction. Et pour bien comprendre ce phénomène d'addiction, il faut comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on est confronté à ces outils numériques. Il y a une étude de plusieurs psychologues de UCLA aux États-Unis qui explique que lorsqu'on découvre un contenu digne d'intérêt sur les réseaux sociaux, la première région du cerveau qui s'active, c'est celle qui nous pousse à échanger avec nos semblables. C'est-à-dire que notre réaction inconsciente, c'est tout simplement de se demander si ça va pas intéresser d'autres personnes. Et d'ailleurs, Facebook l'a très très bien compris avec sa fonctionnalité du share. Ensuite, la deuxième réaction qui vient ensuite, c'est quand on a partagé, très simplement, on est en attente de likes, de commentaires, de réactions. Et en fait, ces likes, ils vont déclencher le circuit de la récompense dans le cerveau. Ils vont simplement libérer les neurotransmetteurs qui vont être responsables du bien-être et du sentiment de bonheur dans le cerveau.
Le partage, donc, et le like, le bravo, finalement. Vous partagez ce point de vue, Dominique Boulier ?
Oui, avec cette nuance peut-être que il est surtout important de noter comment, justement, les plateformes ont été elles-mêmes configurées pour développer ça. Donc ces ressorts psychologiques qu'on peut considérer comme généraux et valides en toute généralité, en réalité, ont été vraiment au cœur même du business model, du modèle économique de ces entreprises. Et de fait, quand on dit, par exemple, le bouton retweet qui est inventé en 2011, si vous voulez, c'est un vecteur extraordinaire de réactivité. Donc on se met en posture de ne pas sélectionner ou hiérarchiser l'information, etc., mais précisément de renvoyer quelque chose sans mesurer les conséquences. Parce que c'est-à-dire que c'est nous qui alimentons ce qu'on appelle quelquefois l'infobésité, mais surtout un rythme pressant. Ça, j'insiste là-dessus.
Est-ce que cette hyperconnexion dont on parle, ça touche toutes les catégories sociales, Dominique Boulier ?
Bien, écoutez, il y a peu de...
C'est quasiment... Tant est qu'on soit connecté, bien sûr.
Voilà, évidemment. Donc, ça, une fois que vous avez cet a priori-là, de fait, on voit bien que c'est un renforcement social. Hein. Donc, c'est collectif. Hein. Comme vous évoquiez les jeunes, par exemple, et l'enjeu pour eux, c'est l'équivalent de la famille qui interdit à l'enfant d'utiliser son téléphone portable. C'est comme si on lui interdisait de voir son groupe de pères. Or, s'il y a quelque chose d'essentiel à l'adolescence, c'est effectivement ce groupe de pairs pour essayer, pour expérimenter, pour se tester, etc. Donc, tous les âges sont à peu près concernés pour des raisons différentes. Certains parce qu'ils sont justement dans cette logique de groupe de pairs, d'autres parce que c'est de la reconnaissance sociale, de la visibilité professionnelle qu'il faut en permanence avoir, d'autres parce que professionnellement.
Une existence finalement.
Oui, c'est ça, c'est se sentir exister. Hein. C'est quelque chose qui s'est diffusé, mais professionnellement aussi. La pression est telle du point de vue du management que vous êtes amené à être vigilant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc cet état d'alerte, ce que j'appelle moi un état d'alerte mentale, il s'est diffusé à peu près partout et dans tous les milieux et de façon étonnante, quelquefois sur des familles les plus ordinaires comme à des professionnels de l'information qui évidemment, on se dit c'est normal pour eux, mais le problème c'est est-ce que c'est normal à ce seuil et à ce rythme ?
Est-ce que quand on est dépendant, on finit par être moins productif, moins performant, puisqu'on a parlé des conséquences de l'hyperconnexion tout à l'heure. Est-ce que ça pose un problème au travail ?
Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, on a aussi le smartphone dans l'entreprise. On parle souvent de déconnexion sur le temps privé, l'invasion de la vie professionnelle dans la vie privée, mais l'inverse est également vrai. Aujourd'hui, si vous travaillez dans les entreprises, au lieu de faire une pause café, vous allez peut-être faire vos courses en ligne, vous allez peut-être répondre à des messages personnels sur Facebook, souhaiter l'anniversaire d'un proche. Et ça aussi, ça interrompt et ça dégrade la productivité parce que c'est un autre élément qui est dans l'étude d'Ager Kefi. Elle rappelle que quand on est interrompu par une notification, pour retrouver le même temps de concentration qu'on avait avant cette interruption, il faut 3 minutes. Donc vous imaginez, mis bout à bout, toutes ces 3 minutes, ça fait un sacré temps perdu.
Des entreprises organisent maintenant un droit à la déconnexion. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'il y a une ça part de textes réglementaires, Thibault Liorade ?
Tout à fait. Alors la France est le premier pays à avoir légiféré en la matière. Le droit à la déconnexion est inscrit dans la loi depuis le 1er janvier 2017. Alors la limite, on va dire, de ce texte, c'est qu'il n'a pas de valeur contraignante et en conséquence, j'ai des chiffres ici qui rappellent que simplement 16% des grandes entreprises ont instauré des mesures en faveur de ce droit à la déconnexion. Donc on peut se demander si c'est vraiment efficace ou
pas. Avec notamment une charte, c'est ça ou...
Tout à fait, mais alors il y a quand même encore une limite, c'est... qu'est-ce qui se passe en termes de management derrière ? Aujourd'hui, on est sur un culte de l'immédiateté et la réactivité, la capacité à traiter les tâches très rapidement, c'est bien vu des managers, c'est bien vu de la hiérarchie. Et un salarié qui va être sur un projet important, qui va être peut-être en concurrence pour une promotion, pour une prime, il va oublier le droit à la déconnexion. Et s'il faut qu'il surtravaille, il va surtravailler. Donc, on a ces deux phénomènes qui sont un peu contradictoires et j'ai bien peur que ce soit le deuxième qui soit en train de l'emporter pour le moment.